Salut la gang! Cette fois-ci, on accueille Vanessa Irakiza, une stagiaire auprès de l'AMI, en gestion de projet recherche de financement, avec un partenaire au Madagascar.
Yep, c'était vraiment intéressant, on a eu une belle discussion avec elle. Elle nous a aussi, en plus de parler de son expérience, donné des conseils qu'elle donnerait à de futurs stagiaires du programme. Tu sais, des petits conseils qu'on aurait probablement aimé avoir avant de s'embarquer là-dedans. Et également, juste rappeler d'ailleurs que notre format de podcast est vraiment plus une discussion qu'une entrevue, par exemple. Donc, vous allez entendre nos points de vue, nos opinions. Puis vraiment, on partage toutes et tous nos expériences respectives.
Alors,
bonne écoute. Donc, salut tout le monde! Aujourd'hui, on reçoit une personne de notre cohorte du PSIJ. Je vais la laisser se présenter dans peu de temps. Enfin, comme on a dit, les cohortes, les podcasts qu'on voulait faire, c'était vraiment pour explorer un peu l'expérience PSIJ. De ce pas, au simple que ça, Vanessa, je te donnerai la parole de te présenter.
Oui, donc bonjour! Je m'appelle Vanessa Irakiza. Je fais un stage PSJ avec un partenaire qui est à Madagascar dans une organisation qui s'appelle SPV Felana. Puis mon mandat de stage, c'est agente en gestion d'organismes et financement. Voilà. Donc, j'ai commencé ce stage-là à la fin du mois de mai. Puis on finit dans 2 semaines déjà. Oui.
Le petit rire nerveux, il est parfait.
Ça s'en vient.
Écoute, t'as brièvement mentionné, Vanessa, ton parcours un peu. Écoute, on va y aller très facile. On a des petites questions. Tu vas comme tu le feels. La première, quelle expérience pertinente est-ce que tu possédais avant de postuler au stage de PSIJ?
C'est sûr que c'est plus mon expérience en tant que chargée de projet puis agente de projet dans la communauté qui m'a incité à postuler pour un stage en lien justement avec la gestion d'organismes et financement. Mais sinon, il y a quand même mon background universitaire où j'ai fait un bac en relations internationales et droit international avec une concentration en études féministes. Et puis maintenant, je fais une maîtrise en travail social. Donc, tout ce qui est organisation communautaire et comme j'aime ça, puis c'est dans ça que je me spécialise, que ce soit à l'école ou dans le cadre de mes anciens emplois. Puis, mon bac en relations internationales et droit international m'a permis justement d'acquérir comme quelques connaissances en coopération internationale, en solidarité internationale. Mais c'est sûr que c'était vraiment plus des connaissances théoriques à l'université. Donc, moi, je n'avais jamais eu d'expérience pertinente sur le terrain en coopération internationale. Mes expériences, justement, en lien avec mon mandat qui est en gestion d'organisation et financement, c'était sur le terrain à Québec dans des organisations communautaires.
Puis ça, quand tu dis les expériences, c'était vraiment dans ton plus au niveau de ta maîtrise de travail social. Tu veux dire dans les organismes communautaires à Québec, c'était dans ta maîtrise de travail social?
Non.
Dans ton bac?
Okay. Non, en fait, quand je travaille, généralement, c'est pas du tout c'est juste un emploi que j'ai eu, là. Surtout pendant l'été, ouais,
okay, je comprends.
Pendant l'été, je travaille souvent dans le communautaire. Puis, j'ai aussi vraiment un emploi pendant presque 2 ans dans une organisation communautaire dans la ville de Québec. Voilà. Puis, mon titre, c'était vraiment en lien avec la gestion de projet.
Cool. Très cool. Ben, un peu dans la même lignée, comme on te dit, on a une couple de questions, fait qu'on va y aller ainsi pour alimenter la discussion. Comment as-tu pris connaissance des stages PSIJ?
Quand j'étais jeune, je voulais vraiment travailler à l'international. Je m'imaginais travailler au Haut commercial des Nations Unies pour les réfugiés parce que je suis venue au Canada en tant que réfugiée. Puis je me suis dit, ah, je me dis, j'ai vraiment envie d'aider d'autres personnes qui vont passer dans les mêmes expériences que les miennes. Mais c'est pour ça que j'ai fait des études en relations internationales, droit international, au début. Mais au cours de mon parcours, je me suis vraiment rendu compte que je me sentais pas très à l'aise dans la manière dont nous, en Occident, en fait, on investit dans la coopération internationale en général. Je trouvais qu'il y avait pas mal de colonialisme dans notre approche. Donc, c'est pour ça que pendant tout mon bac, je n'ai même pas, en fait, fait de stage à l'international. Mais la solidarité internationale, c'est vraiment quelque chose qui est ancré en moi parce que ça fait partie de mes valeurs de justice sociale. Puis, après avoir arrêté mon emploi que j'avais depuis presque 2 ans et que je sois partie en voyage pendant quelques mois, je suis revenue à Québec. Puis, j'ai vu que j'ai vu un post, en fait. Je pense que je l'ai vu sur Facebook parce que ça fait longtemps que je suis l'amie. Donc, j'ai vu les posts PCJ, puis c'est comme ça que je me suis dit j'ai envie d'appliquer. Mais je dois aussi mentionner que je suis l'amie depuis quelques temps déjà, parce que ils avaient l'année dernière un stage PSG au Rwanda. Puis je suis d'origine burundaise et je me suis dit au Rwanda, on parle une langue qui est similaire au Kirundi, la culture est aussi semblable quand même qu'au Burundi. Donc, je me suis dit, si j'ai envie d'explorer le travail à l'international, dans la coopération internationale, ce stage-là serait quand même parfait pour moi parce que ça m'évite... déjà, je connais une partie de la culture, je connais la langue, puis ça m'éviterait peut-être d'être dans un processus de rapport de pouvoir quand même assez important. Mais je n'ai vraiment pas appliqué à ce stage-là parce que j'avais un emploi que j'aimais quand même bien. Quand je suis revenue à Québec après mon gros voyage de 5 mois, ben je suis allée voir les offres de l'AMI. Et puis parmi ces offres-là, il y avait un stage à Madagascar qui correspondait quand même bien à ce que je recherchais également. Même si ce n'était pas au Rwanda, donc j'ai décidé d'appliquer. Donc voilà.
Très cool. Très cool. Si je peux me permettre une autre question, une sous-question. Tu as parlé justement de l'approche colonialiste que tu trouvais qui était quand même trop présente un peu dans ce qu'on voyait surtout, je pense, sur les bancs d'école là, notamment, puis dans la pratique et tout. Puis tu viens de le mentionner un peu que justement avec au Rwanda, tu pensais que avec le projet au Rwanda, qu'il y avait moyen de faire ça un peu moins colonialiste. C'est à peu près ça que j'ai compris. Ça,
oui, mais je pense que souvent, quand on est une personne qui connaît déjà pas mal la culture, certains aspects culturels du pays dans lequel on veut faire de la coopération, mais aussi qu'on a des origines dans cette région géographique, oui. Déjà, c'est moins pire selon moi, souvent. Puis je savais que je serais en contact avec d'autres personnes noires et que je suis une personne noire également. Donc, c'est ça que je me disais. Là. Mais je dois avouer que je me rends compte que c'est pas toujours évident et que tu sois... Que même moi, en fait, une personne qui est noire, qui est d'origine africaine, je peux aussi, en fait, participer à des processus de colonisation négatifs lorsque je fais de la coopération internationale si je ne prends pas en compte mes privilèges, étant une personne qui a grandi ici, puis également que j'ai beaucoup assimilé aussi les manières de faire d'ici. Donc, c'est pas parce qu'en fait, tu as cet héritage-là culturel que tu n'en as pas d'autre aussi, que tu as adopté de l'Occident. Donc, il faut vraiment faire attention.
C'est très intéressant, ça, pour vrai. Je trouve ça le fun. Pas le paradoxe, là, mais le parallèle que, tu sais, même si tu as des origines de là, pas un biais, là, mais tu as quand même été élevé en partie de ta vie ailleurs aussi, tu sais. Fait que c'est normal de faire attention.
Mais écoute, puis comme... Je suis complètement d'accord, parce que, tu sais, je suis un peu dans la même situation, ayant grandi et dans un autre pays, là, quand je me retrouve dans ma situation actuelle, avec mes privilèges, avec une autre culture, si on veut. Je ne sais pas, toi, dans ton cas, mais je me sens souvent confrontée à mes valeurs d'ici, mes valeurs de là-bas, mes valeurs familiales, parce que ne sont pas les mêmes. Je me rends compte de plus que je vieillis, la façon comment mes parents y auraient aimé m'élever dans mon pays n'est pas la même dont ils m'ont élevé ici. Donc, on est souvent confronté à ces valeurs-là. C'est vraiment des chicanes nounounes, à cause de ça. Un manque de préhension de valeurs de cette part-là. Puis ça, c'est dans une famille. Fait qu'imagine quand on l'applique dans l'international, quand on l'applique directement dans la coopération, c'est ça que ça vient chercher. Parce que t'es dans une situation où t'es comme, OK, je sais que j'ai des privilèges, je sais que je l'ai vécu, je le comprends, mais en même temps, je le comprends plus parce que la situation n'est pas la même que celle que t'as quittée quand t'es parti. Fait que ouais, je te comprends totalement là-dessus, avec ce feeling-là.
Puis je pense que une des exercices que nous on a fait, notamment au début de notre mandat, puis un des exercices que toute personne devrait faire à un certain point, c'est reconnaître justement les privilèges qu'on a, puis essayer justement de voir en quoi ça peut nous impacter, en quoi ça peut mettre un filtre aussi dans notre vision des choses. Tu sais, dans un mandat international, c'est vraiment important, quant à moi, d'avoir vraiment bien identifié ces privilèges-là, puis comment qu'on peut faire pour essayer de les. De bypasser un peu, de passer à côté ces biais-là aussi, le plus possible. Évidemment, ça reste souvent bien ancré, mais dans la mesure du possible, là, on peut quand même passer outre ça le plus possible,
Ouais, puis surtout aussi
selon moi.
nos biais par rapport à la manière dont on travaille, à la manière dont on perçoit le travail, à notre rapport avec le travail en général, c'est pas toujours, c'est très culturel, on s'en rend pas compte. Je pense que souvent on s'en rend pas compte que travailler 35 à 40 heures semaine, avoir un horaire super chargé avec pas tant de flexibilité. C'est pas c'est très occidental, et c'est pas nécessairement en fait une pratique des pratiques qui sont adoptées par d'autres personnes, et il faut vraiment, comme je pense le mot qui est beaucoup ressorti pendant mon stage, c'est l'adaptation. Donc il faut vraiment prendre en compte que nous avons intégré des manières de faire, des savoir-faire en Occident. Depuis qu'on est sous les bancs de l'école, et que tu dois vraiment t'en rendre compte avant de partir en stage, idéalement. Mais c'est correct aussi si quand tu t'en rends compte pendant ton stage, tant que tu es capable de pouvoir t'en rendre compte, de réfléchir à tes pratiques, de voir comment t'adapter à d'autres manières de faire. C'est super important. C'était pas clair, mais c'est ça.
Ben, si je peux me permettre de rajouter encore un peu, ce que tu dis, c'est l'adaptation, la capacité de s'adapter. Effectivement, je pense que c'est vraiment primordial. Puis à un certain point, je pense qu'il y a un côté d'humilité à avoir. Surtout au début, tu sais, comme avouer que t'as pas nécessairement, tu sais, qu'il n'y a pas vraiment de bonne façon de faire, que tu as été trainé, que tu as été comme, que tu as appris à faire une façon X, mais que c'est pas la seule. Puis, je vais parler pour moi, là, mais dans mon mandat actuel, c'est sûr que ça a été un petit plus gros défi à cause du volet virtuel. Je veux dire, c'est pas mon premier mandat, j'en ai fait quelques-uns par-ci par-là en coopération internationale sur le terrain, en Amérique latine principalement. Mais le fait que ce soit en virtuel, le fait d'être moins dedans, tu sais, d'avoir moins, personnellement, d'avoir moins le feeling, tu sais, d'avoir comme un mode de travail avec un partenaire comme différent, je veux dire ça comme ça, mais que je vis dans un monde occidental à mon day-to-day, moi ça comme des fois ça faisait un clash là, puis c'était ben je m'observais là, je trouvais ça drôle d'observer pourquoi ça fait un clash puis de regarder ben ok tu sais, mais ouais, fait que ça a été quand même un défi là, maintenant qu'on en
Oui,
parle.
absolument. Là, je comprends vraiment ce que tu dis, et je pense que je l'ai vécu aussi. Oui, c'est vrai que c'est important en fait de, oui, que nous, on n'a pas la meilleure manière de travailler, là, de s'en rendre compte que c'est juste, il y a plusieurs manières de travailler, puis notre manière de travailler n'est pas nécessairement celle qui est la plus saine aussi pour notre santé mentale en général, en Occident.
Tout à fait.
Ouais, donc ouais.
peux enchaîner un avec la même lignée, là. Tu as des défis. La fin du stage, comme tu dis, arrive dans moins de 2 semaines. Qu'est-ce que tu penses que tu vas en retenir le plus?
Ce que je retiens le plus, c'est que ben, il y a des organisations des pays du Sud qui font qui ont déjà commencé à penser à la manière dont il est possible de faire le développement durable de manière concrète. Puis là, je pense à mon partenaire, Respect Fait la Nature, qui essaie de mettre en place un éco-village dans une région de Madagascar. Dans une communauté qui est pas nécessairement la plus riche de Madagascar. Puis je me rends compte que ben, cette communauté-là est en train de se diriger vers une autre manière de se développer, en fait, qui est beaucoup plus saine pour l'environnement, mais aussi plus sain pour les humains qui composent cette communauté-là. Donc, qu'on n'est pas nécessairement obligé de s'inscrire dans un développement libéral, capitaliste pour répondre à ses besoins.
C'est très cool, effectivement. Je trouve ça le fun. Je vais rebondir encore un peu sur justement l'éco-village. Peux-tu nous en dire plus? Qu'est-ce qu'un éco-village, ou du moins dans le contexte avec lequel tu as travaillé?
Ouais, j'ai pas. En fait, moi, j'ai pas travaillé en tant que tel sur le projet d'éco-village. Je travaille vraiment dans la recherche de financement. Puis au début, c'était pour parce qu'ils veulent développer un projet d'écotourisme. Puis dans le cadre justement de trouver les moyens en fait pour financer certaines activités certains projets de l'éco-village. Donc, ce qu'ils pensent faire, c'est notamment, par exemple, comme la gestion de déchets, s'arranger pour que, au-delà du recyclage, mais de penser en fait à une manière circulaire de produire moins de déchets, puis si on en produit, d'essayer de les transformer en compost, également de choisir disons, des manières en fait de travailler la terre qui est plus durable. Donc la plupart des gens de cette communauté-là vivent de l'agriculture, mais de s'arranger pour créer en fait une économie agricole qui est plus durable pour la communauté, et de s'inscrire dans le local également. Puis pour ce qui est du projet d'écotourisme, de oui, utiliser le tourisme pour en fait pouvoir avoir accès à du financement pour leur projet, mais d'une manière qui est plus responsable, par exemple, de remettre de l'avant, en fait, les productions culturelles, artisanales des femmes de la communauté, mais qu'ils aient aussi un gain par rapport à. Ben, qu'ils aient aussi un gain, que ce ne soit pas juste des bénévoles qui font juste montrer et regarder comment je fais mon panier tressé, mais qu'ils puissent aussi en bénéficier à long terme, notamment, par exemple, je sais pas, l'arrivée de ces profits liés au tourisme peut permettre, par exemple, la création d'un centre à l'intérieur de l'organisation ou juste financer des projets sociaux comme la création d'un centre de santé, là. Donc, voilà.
Admettons que il y aurait un conseil qu'on aurait pu te donner avant de commencer ton stage, et un conseil ou un conseil que tu pourrais donner à quelqu'un d'autre qui s'enligne pour commencer un stage de PCJ, qu'est-ce que tu lui dirais? Ça serait
Je
quoi?
vous dirais c'est ça, de faire, ça revient un peu aux discussions de tantôt, mais de faire un travail sur soi, de comprendre à quel point nos savoir-faire, même nos savoir-être, sont imprégnés en fait de ce que nous, on a appris ici en Occident. Puis aussi, puis c'est normal qu'il y ait des clashs, c'est normal qu'il y ait parfois des hauts et des bas, mais de toujours, en fait, quand même prendre le temps de se questionner, que c'est pas nécessairement toujours l'autre le problème. Ce qu'on a toujours tendance à faire ici, et ici, je pense, on a une vision très ethnocentrée parfois, donc de toujours penser, ah, mais c'est peut-être aussi notre manière de faire qui peut poser problème. Donc, juste de faire un travail sur soi, c'est vraiment le pour se comprendre. C'est vraiment quelque un conseil que je donnerais à une personne qui commence un PSJ, mais également de que c'est normal, comme dans tout emploi et dans souvent dans beaucoup de nouvelles expériences, il y a des hauts puis des bas, puis il faut apprendre à vivre avec cela, puis ne pas abandonner juste parce que on a eu un petit clash, juste parce que je sais pas finalement vous n'êtes pas compris avec ton partenaire sur un aspect, puis tout d'un coup c'est la fin du monde pour toi, surtout dans le virtuel. J'ai toujours l'impression que il arrive une petite friction, même un truc qu'on s'est mal compris, puis on dit que c'est la fin du monde. Puis souvent les jeunes qui font le PSJ, on a vraiment on veut beaucoup aider, énormément aider. Puis ça peut aussi être présent de se rendre compte on n'est pas, finalement on s'est pas bien compris, je suis pas en train d'aider de la bonne manière, donc de pas, c'est pas parce que ça arrive que tu qu'il faut que tu lâches là, que juste prendre le temps de communiquer avec le partenaire, mais aussi avec d'autres membres qui font le PSJ, là, parfois ça te permet aussi de revenir de manière plus nuancée sur une expérience que tu as vécue, puis de finalement de trouver, d'avoir d'autres points de vue, puis de pouvoir continuer aussi, puis de continuer dans le cadre de ton stage en général, mais de manière plus simple.
Ouais, puis je pense que c'est un bon point, dans le sens qu'il y a toujours des hauts et des bas, peu importe que ce soit une vraie job, que ce soit un emploi fixe ou un stage comme celui du PSJ. Puis je pense que notamment, tu sais, dans l'exemple du PSJ, je pense que les organismes, les OCI, les organismes de coopération internationale ici au Canada, sont au courant de ça, puis c'est comme un peu... pas attendu, mais du moins entendu qu'il va y avoir des hauts et des bas, que je veux dire, la vie suit son cours aussi, tu sais. Fait que c'est normal, à un niveau très personnel, d'avoir des semaines plus down, ou même avoir des gros questionnements. Comme tu dis, la communication n'est pas toujours facile. Fait que ça aussi, eux sont là pour vous appuyer là-dedans, d'ailleurs, les OCI. Fait que à tout moment, je pense que ne jamais se gêner de contacter nos responsables OCI pour nos petits downs. Puis ça arrive, ça fait partie de la chose. Évidemment,
la communication, c'est super important, que ce soit sur le terrain, mais particulièrement, en fait, quand tu fais un stage virtuel. Même là, de définir tout de suite, au début du mandat, la meilleure manière de communiquer avec ton partenaire, c'est essentiel. Qu'est-ce qui fonctionne pour toi et qu'est-ce qui fonctionne pour le partenaire? Ouais.
Vraiment, très, très important. Puis, j'aurais peut-être une question supplémentaire qui m'est venue avec nos discussions et tout. Au sein du programme PSJ, il y a quand même un bon volet de l'employabilité. On rappelle que c'est des stages professionnels qui veulent justement un peu préparer pour de futurs emplois dans le domaine de la coopération. Ma question, c'est qu'est-ce que tu retiens en plus de ce volet-là? Sans nécessairement revenir spécifiquement sur les formations qu'on a eues, parce que oui, il y en a eu des formations sur l'employabilité, mais qu'est-ce que tu vas retenir de ton stage ou même de ces formations-là spécifiquement au niveau de, tu sais, comme de tes prochains emplois ou
Ce que je retiens, en fait, du volet employabilité, c'est de se permettre de rêver, je pense, on a fait l'exercice hier, donc je reviens un peu à la formation, mais de pouvoir se demander qu'est-ce qu'on ferait si on n'avait aucune contrainte. Qu'est-ce qu'on ferait dans la vie si on n'avait aucune contrainte? De voir, en fait, le résultat de cette réflexion, puis de se dire pourquoi on n'est pas là, puis comment on peut conjuguer nos rêves et certaines contraintes. Et est-ce qu'il y a des contraintes qui peuvent disparaître également? Parfois, il y en a qui ne peuvent pas disparaître. Tu as besoin d'argent pour survivre. Donc, tu ne peux pas juste vivre de... Ben, tu peux, oui,
c'est dans, ça, la société dans la société actuelle, actuelle du moins, c'est ça. Ça.
On n'a pas parlé de révolution et tout ça, mais bon, ouais, en ce moment, oui, en ce moment.
Ça sera pour un épisode 2, la révolution.
Ouais, donc de se permettre de rêver, puis également, je pense que le réseautage, je découvre que le réseautage, c'est quelque chose de très important. Si vous voulez travailler en coopération internationale, c'est primordial. J'ai des critiques par rapport au réseautage, notamment parce que souvent, si tu n'as pas déjà des personnes autour de toi qui sont connectées, ça peut être plus difficile pour toi de rentrer dans ce domaine-là, en fait, de la coopération internationale, mais de saisir les opportunités.
Cool. Tout à fait. Je suis bien d'accord avec ce qui a été dit.
Ma question serait, après avoir participé au PSIJ, est-ce que tu sens que tu es plus prête ou ça n'a pas fait un changement pour ta future carrière?
Oui, clairement, personnellement, faire le PSIJ, ça a été vraiment bénéfique dans la mesure que j'ai découvert aussi. Je me suis découvert, encore une fois, j'ai découvert qu'est-ce que j'appréciais, qu'est-ce que j'appréciais un peu moins. Ça m'a aussi ouvert des horizons en général. Je ne sais pas si dans le futur, je vais m'aligner dans la coopération internationale, mais au moins, je sais un peu plus que si je le fais, je pense que je sais qu'est-ce que j'aime. Je sais un peu plus, en fait, comment je le ferai pour que ça soit plus conforme dans mes valeurs à moi, en fait.
Très cool. Très bon mot de la fin aussi. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation de venir à ce podcast de l'AMI.
Merci à vous. Moi, ça a été super agréable.
Génial. Puis, à bientôt.
À bientôt.
Alors la gang, ça conclut notre épisode de cette fois-ci. On vous rappellerait que cette saison 3, un petit peu plus une discussion entre amis, si on veut le voir comme ça, sert à vous donner plus d'informations sur le programme PSIJ, de l'expérience des stagiaires par les stagiaires, pour peut-être vous encourager à en devenir un.
Yep. Puis on vous rappelle également, si vous avez des questions, n'oubliez pas que vous pouvez toujours consulter la page web du programme PSIJ que vous pouvez retrouver dans la description. Ou même, si vous êtes un petit peu plus intéressé, consulter les OCI qui vous intéressent. Je suis sûr que ça leur fera un plaisir de répondre à vos questions.
Sur ce, restez à l'affût pour le prochain épisode. Ciao!
Bye!